Deutsche Welle. Pulsation.
Nous nous intéressons cette semaine à la minorité copte en Égypte pour parler ensuite de littérature qui fait voyager avec le roman « Amour nomade » de l'écrivain marocain Youssouf Amin El Alami. Et on terminera par un anniversaire. 50 ans pour un être humain, c'est déjà un âge respectable, mais pour un pays, c'est encore très jeune. Bonjour à toutes et à tous, c'est Aude Gensbittel au micro. Vous êtes prêts? Ça va pulser.
Le saviez-vous?
Les Coptes d'Égypte. Le week-end dernier, une vidéo diffusée sur Internet a suscité une vague d'indignation en Égypte et dans le reste du monde. Une vidéo qui montrait la décapitation de 21 Coptes égyptiens par le groupe djihadiste État islamique à cause de leur confession. Mais qui sont les Coptes exactement ? Eh bien, il s'agit des chrétiens orthodoxes vivant en Égypte, une minorité par rapport au reste de la population essentiellement musulmane. Le mot copte vient du grec ancien « égyptos » qui signifie tout simplement « Égypte ». L'église copte d'Alexandrie est l'une des plus anciennes du continent africain. Elle a été créée au 1er siècle de notre ère alors que l'Égypte était sous influence romaine. Qui représente les coptes ? À la tête de l'église copte, il y a un patriarche ou un pape copte si vous préférez. Actuellement, le patriarche est Théodore II. Il existe aussi une langue copte. Si elle n'est plus parlée depuis le XVIIe siècle, elle est toujours utilisée dans les liturgies et célébrations religieuses. Les rapports entre coptes et musulmans n'ont pas toujours été sans problème en Égypte, par exemple sous le régime du président Hosni Moubarak pendant près de 30 ans. Mais encore plus pendant la période où le président islamiste Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, était au pouvoir entre 2012 et 2013. La minorité copte avait alors dénoncé la discrimination et les violentes attaques dont elle était victime. De nombreuses églises avaient aussi été brûlées. Il existe aujourd'hui une importante diaspora copte à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans certains pays d'Europe. Rencontre à présent avec Youssouf Amin El Alami, auteur du roman « Amour nomade ». Dans ses romans précédents, « Clandestin » et « Oussama, mon amour », l'écrivain marocain Youssouf Amin El Alami s'était penché sur des thèmes sociaux, inspirés entre autres de l'actualité liée à la migration et au terrorisme. Sa dernière œuvre, « Amour nomade », est plutôt une histoire hors du temps. Avant de paraître sous forme de livre, en français, en anglais et en allemand, le texte avait été présenté sous forme d'installation littéraire au Maroc, aux Pays-Bas et en Allemagne. Youssouf Amin El Alami est récemment revenu à Cologne pour présenter son roman sous forme papier cette fois-ci. Il nous explique tout d'abord comment lui est venue l'idée d'écrire « Amour nomade ».
Comme toujours, j'ai une image, tout simplement, mais une image qui tourne à l'obsession. Donc là, en l'occurrence, pour ce livre, j'ai vu le patio d'un riad, donc d'une maison traditionnelle, avec une espèce d'écriture un petit peu sur les éliges. Cette image, bon, m'a visité plusieurs fois. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à voir des personnages, et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et j'ai commencé d'abord par un premier chapitre que je qualifierais de chapitre générique, dans lequel je dis, voilà, dans cette histoire, il y a ceci, il y a cela, il y a tel et tel personnage, hein, sans savoir exactement ce que j'allais en faire. Mais ce premier chapitre générique a constitué pour moi, je dirais, un point de départ, puisque après, il me fallait inventer l'histoire de cette jeune femme, de ce vieillard qui ne meurt jamais, de cet arbre qui donne jamais les mêmes fruits, etc., etc. Je dois dire que c'était un exercice très, très intéressant et très stimulant.
Avant que l'histoire soit publiée sous forme de livre, elle existait d'abord sous forme d'une installation littéraire, un roman dans la ville. Comment ça s'est passé exactement ?
Oui, alors en écrivant cette histoire, j'ai eu envie de donner au lecteur la possibilité non seulement de lire un livre sur le nomadisme, toutes sortes de nomadisme d'ailleurs, mais aussi de faire l'expérience du nomadisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai élaboré un projet que j'ai appelé un roman dans la ville, qui consiste à installer, hein, comme une installation artistique, installer le roman sous la forme d'une trajectoire ou d'un itinéraire qui passe d'un lieu à l'autre d'une même ville. Donc on ne peut lire cette histoire que si l'on accepte de progresser dans l'espace, d'avancer. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut aider finalement l'histoire et les personnages qui sont dans cette histoire à survivre.
Même quand on lit cette histoire sous forme de livre écrit, de livre en dur, de roman, il fait quand même voyager. Enfin, l'histoire fait voyager parce qu'on accompagne, en tout cas au début de l'histoire, le personnage principal, Tashfin, dans son voyage dans le désert. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le désert est décrit d'un côté comme un environnement très hostile, dans lequel on meurt, qui est menaçant, mais aussi majestueux, beau et très très puissant.
Oui, moi, le désert, au-delà du sens premier du désert, c'est aussi, pour moi, une espèce de métaphore de la page vide, la page blanche. Je n'appellerai pas blanche, puisque la page sablée, mais vide. Et finalement, tous ces personnages, ces nomades qui parcourent le désert à la recherche de leur propre survie, tout simplement, pour moi, ils décrivent un itinéraire, ils décrivent et ils laissent surtout derrière eux des inscriptions, des traces de pas qui pour moi sont aussi et sont autant de signes d'écriture. Pour qui sait lire ce genre d'écriture, évidemment. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir si les oiseaux qui volent tout là-haut finalement ne perçoivent pas tous nos déplacements, tous nos mouvements comme une forme d'écriture, toujours en devenir, une écriture qui n'est jamais figée et qui ne disparaît, je dirais, que pourrait apparaître sous une autre forme.
Il y a un contraste saisissant dans le livre entre le désert, d'une part, cette vaste étendue, on a l'impression qu'elle est infinie presque, et puis le huis clos qui arrive après, et c'est l'univers, l'univers qu'habite, en fait, dans lequel évolue le personnage de Yasmine, la jeune femme dont Tashfin va tomber amoureux, en fait.
Oui, absolument. Je voulais vraiment marquer le contraste entre ces deux univers. Un premier espace où on est vraiment dans l'immensité du désert. Et puis ensuite, on va basculer dans un huis clos. À partir du moment où Tashfin, le personnage principal, franchit la porte de ce riad, il n'en sortira plus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne poursuivra pas son nomadisme. Pour moi, il poursuit son nomadisme, mais il le fait de manière différente, et notamment par le biais de l'écriture. C'est-à-dire que la main de Tashfin, la main qui écrit, est toujours nomade. Elle se déplace au gré des lettres, puisque chaque lettre a sa forme. Finalement, une lettre, c'est un itinéraire aussi, c'est un voyage d'un point à l'autre. L'écriture est un voyage aussi. Et donc, il va poursuivre ce nomadisme, mais à travers l'écriture, qui elle-même permet ou offre un autre type de nomadisme à travers l'imaginaire.
C'est une écriture très poétique que vous utilisez, mais qui va aussi à la limite du fantastique, parfois avec des images, un vieillard qui ne meurt jamais, un arbre qui donne des fruits différents à chaque fois.
Oui, c'est, on pourrait presque qualifier ce livre ou cette façon d'écrire de réalisme magique. On connaît un petit peu le mouvement du réalisme magique en Amérique latine. Personnellement, je suis un adepte de ce type de littérature. Mais c'est aussi quelque chose que l'on trouve énormément dans nos cultures, dans le monde arabe. C'est-à-dire que nous avons constamment un monde invisible qui côtoie le monde du visible. Je vous donne un exemple. Lorsque on entre dans un lieu, dans une pièce, par exemple, vide, on dit « Salam alaikum », que la paix soit sur vous. Pour quelqu'un de rationnel, j'imagine ici... En Occident, ça, on peut même avoir l'impression que la personne est débile, parce que la personne est en train de saluer une pièce entièrement vide. Sauf que chez nous, on part du principe que la pièce est habitée par des esprits.
Ce roman, Amour nomade, il a été traduit en allemand, comme l'un des précédents aussi, Les clandestins. J'imagine qu'on peut être content d'avoir un public plus vaste dans un autre pays, mais vous, en tant qu'écrivain, est-ce que l'idée que vos mots soient traduits dans une autre langue que vous-même, vous ne comprenez pas forcément, ça n'a pas quelque chose d'étrange aussi? Vous vous inquiétez parfois de la qualité de la traduction?
Ah, c'est sûr. Alors, le roman a été traduit aussi en anglais, publié aux États-Unis. Là, j'ai eu moins de problèmes parce que bon, je lis et j'écris l'anglais, donc j'ai pas de problème. J'ai pu superviser la traduction. En allemand, c'est un peu plus difficile parce que je ne parle pas allemand, je ne le lis pas. Mais disons que j'ai eu quand même la chance de tomber sur une excellente traductrice et de l'avis des Allemands qui sont du domaine. Et puis les gens qui ont lu ce livre en allemand m'ont dit qu'on a l'impression qu'il a été écrit en allemand. Or, je pense que c'est la preuve même que c'est une bonne traduction. On ne sent pas que c'est traduit. Mais c'est une chance, hein, parce que des fois, les traductions, effectivement, peuvent... Je ne parle pas du sens, parce que le sens, on peut respecter le sens, on peut retrouver le sens, mais je dirais la magie des mots, la petite musique, on peut parfois la perdre, surtout lorsqu'il y a cette dimension poétique ou lyrique dans un texte.
Coup de projecteur.
Le 18 février 2015 marque le 50e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Jusqu'à 1965, ce pays d'Afrique de l'Ouest était sous protectorat britannique. Enclavé dans le Sénégal, la Gambie est le plus petit pays du continent africain, archipel mis à part, bien sûr. Le pays a récemment fait parler de lui à cause d'une tentative de coup d'État fin décembre 2014 contre le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis plus de 20 ans. L'organisation Amnesty International dénonce de graves violations des droits de l'homme en Gambie par un régime qui, je cite, « fait régner la peur et l'arbitraire ».
Approchez ! Approchez, approchez, mesdames et messieurs !
C'est la fin de ce magazine. On se quitte en musique avec Smokey et 50 ans de dépendance. Au revoir et à bientôt.
Laissez-vous emporter par la consonance du mot « liberté ». Écoutez-les sonner, car pour sonner, ils sonneront, mais ils resteront des mots. Écoutez sonner le glas de nos indépendants. 50 ans d'incompétence sans autre conséquence que de faire croire aux abrutis que le moment est venu de festoyer d'abord et de réfléchir ensuite. Depuis lors, ça continue malgré les déficits. Si les cons savaient voler, ils seraient sur satellite. Ce sont les mêmes qui commémorent, qui battent tous les records dans le bas du classement des indices de développement. Premier à monter au créneau dès qu'il s'agit de réconfort, sans jamais avoir à fournir le moindre effort. Car s'ils pensaient travailler, ils n'auraient pas le culot de fêter quelque chose qui leur a été octroyé. Vous la voulez l'indépendance, disait le général. Alors ils nous l'ont donné, c'est depuis lors que l'on danse sans pouvoir s'arrêter. En fait quoi, 50 ponts, 50 routes ou 50 ports?
50 ans d'indépendance.
Ça alors, 50 canards. Tu veux dire de dépendance?